En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Lors de la séance du 27 novembre 2006 de l'Académie des sciences morales et politiques, le journaliste, sociologue et producteur Philippe Meyer faisait une communication consacrée au thème journalisme et démocratie. Retrouvons-le en séance.
Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites en me demandant d'intervenir devant vous et que je n'ai eu l'audace d'accepter que parce que j'ai déjà eu l'occasion d'éprouver de nombreuses fois la bienveillance d'un grand nombre de vos membres à mon égard. Que l'existence d'une presse libre soit une condition, voire un élément constitutif de la démocratie, voilà un axiome qui se prouve par la négative, je veux dire par la sévérité du contrôle des moyens d'information privés dans les régimes autoritaires et par l'absence de ces mêmes moyens d'information indépendants dans les dictatures. Dans ces pays, il faut chercher ailleurs que dans les médias l'expression de l'opinion à l'égard du pouvoir. Le vaudevilliste et librettiste d'opéra Eugène Scribe, dans son discours de réception à l'Académie française, déclarait « Je définirais l'Ancien Régime comme un gouvernement absolu tempéré par la chanson ». Comme on peut s'en convaincre en consultant le richissime fonds Coirot à la Bibliothèque nationale, ça n'est pas en effet la Gazette ou le Moniteur François qui prenaient leur distance vis-à-vis du pouvoir, ce sont les battleurs du Pont-Neuf. Ils font circuler à leurs risques et périls des vérités non admises par la Cour ni par les ministères, ce qui n'en fait d'ailleurs pas des vérités vraies pour autant, puisque nombre des chansons brocardant les puissants ou dénonçant des scandales sont des œuvres de commande et que bien des plumes de chansonniers sont des plumes mercenaires qui défendent sans grand scrupule des intérêts particuliers, en ira-t-il différemment plus tard de la presse. Dans la défunte Union soviétique, ce n'est que par les blagues et les histoires drôles que l'on pouvait se faire une idée pas trop inexacte du degré d'adhésion de la population au régime. Le peuple en raffolait et les faisait circuler de bouche à oreille, sans crainte des 3 années de prison que promettait le code pénal soviétique à tout colporteur de plaisanteries antisociales. À propos des 2 quotidiens impavidement officiels, la Pravda, autrement dit la vérité, et les Izvestia, autrement dit les informations, une blague fort répandue disait « On ne trouve pas de vérité dans les informations et pas d'informations dans la vérité ». Plus sérieusement, on ajoutera que les journalistes comptent souvent parmi les premières victimes des dictatures et que le contrôle des médias est toujours l'un des premiers objectifs des régimes autoritaires et des gouvernements liberticides. Aujourd'hui, à notre connaissance, 129 journalistes sont emprisonnés de par le monde pour avoir exercé leur métier. 32 d'entre eux ont été arrêtés en Chine, 23 à Cuba, 7 en Birmanie, 4 en Turquie. Et si les organisations non gouvernementales vouées à la surveillance de la liberté de la presse ne recensent aucun journaliste emprisonné en Russie, 3 ont été assassinés cette année, Ilya Zimine en février, Evgeny Gerasimenko en juillet, Anna Politkovskaya en octobre. Leur assassinat porte à 15 le nombre de confrères éliminés dans ce pays depuis 2002 par le moyen du meurtre, sans que les exécuteurs de ces basses œuvres aient pu être retrouvés et jugés, ni leurs commanditaires identifiés et punis. Aucune utilisation paresseuse ou malhonnête de la puissance des médias, aucune instrumentalisation, aucun abus de leur part ne peut justifier de s'écrier avec Balzac dans sa monographie de la presse parisienne « Si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer ». Je m'arrêterai pourtant sur le caractère actuel du développement que Balzac donne à cette exclamation, à cette malédiction, lorsqu'il la place dans la bouche d'un de ses personnages, de l'île des illusions perdues, et qu'il la répète la même année. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne n'en soit coupable. Je serai, moi, Vignon. Vous serez, toi, Lousteau, toi, Blondet, toi, Finot, des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents. Nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce. Personne ne s'en croit sali personnellement. Cédant au plaisir des évocations littéraires, je voudrais faire répondre à Balzac par Chateaubriand. C'est sur l'inéluctabilité du rôle des journaux dans la vie politique qu'il fonda la campagne de défense de la liberté de la presse qu'il mena avec l'Académie française et la Chambre des pairs en 1827. Comme l'ont souligné plusieurs membres de votre Académie dans un recueil d'études intitulé « Chateaubriand visionnaire », le regard de l'auteur de l'essai sur les révolutions tient à la fois du constat et du présage. Rapportant ses souvenirs de la journée de juillet 1830 où furent publiées les quatre ordonnances de Charles X, Chateaubriand écrit « Et là encore, nous ne pouvons qu'être frappés par la validité que conserve aujourd'hui sa démonstration et son développement. » J'emportai le Moniteur. Aussitôt qu'il fit jour, le 28, je lus, relus et commentai les ordonnances. Le rapport au roi servant de prolégomène me frappait de deux manières. Les observations sur les inconvénients de la presse étaient justes, mais en même temps, l'auteur de ces observations montrait une ignorance complète de l'état de la société actuelle. Sans doute, les ministres depuis 1814, à quelque opinion qu'ils aient appartenu, ont été harcelés par les journaux. Sans doute, la presse tend à subjuguer la souveraineté, à forcer la royauté et les chambres à lui obéir. Sans doute, dans les derniers jours de la Restauration, la presse, n'écoutant que sa passion, a sans égard aux intérêts et à l'honneur de la France attaqué l'expédition d'Alger, développé les causes, les moyens, les préparatifs, les chances d'un non-succès. Elle a divulgué les secrets de l'armement, instruit l'ennemi de l'état de nos forces, compté nos troupes et nos vaisseaux, indiqué jusqu'au point de débarquement. Le cardinal de Richelieu et Bonaparte auraient-ils mis l'Europe au pied de la France si l'on eût révélé ainsi d'avance le mystère de leurs négociations ou marqué les étapes de leurs armées? Tout cela est vrai et odieux. Mais le remède? La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. Il faut apprendre à vous en servir en la dépouillant de son danger, soit qu'elle s'affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l'humanité. Une preuve de l'impuissance de la presse dans certains cas se tire du reproche même que vous lui faites à l'égard de l'expédition d'Alger. Vous l'avez pris, Alger, malgré la liberté de la presse, de même que j'ai fait la guerre d'Espagne en 1823 sous le feu le plus ardent de cette liberté. À ce réalisme, qu'on peut trouver désabusé, Chateaubriand ajoute un argument décisif et qui tient lieu d'éloge comme de lettre de mission. La liberté de la presse a été presque l'unique affaire de ma vie politique. J'y ai sacrifié tout ce que je pouvais y sacrifier, temps, travail ou repos. J'ai toujours considéré cette liberté comme une constitution entière. Les infractions à la charte m'ont paru peu de choses tant que nous conservions la faculté d'écrire. Si la charte était perdue, la liberté de la presse la retrouverait et nous la rendrait. Si la censure existait, c'est en vain qu'il y aurait une charte. Balzac, donc, ne croit pas que le journal puisse redevenir un sacerdoce, s'il l'a jamais été ailleurs que dans le monde des souhaits. Chateaubriand considère que, toutes choses égales, la presse peut éclairer l'opinion, ou plutôt que sans la presse, l'opinion ne peut être éclairée. Mais il sait que cet éclairage n'est ni la plus constante, ni la plus spontanée des fonctions que remplissent les journaux. Et si l'on en croit les études réalisées dans notre pays, tant par des instituts de sondage que par des chercheurs plus intéressés par le long terme, l'opinion est aujourd'hui portée par l'expérience à relativiser le rôle que jouent les médias dans le fonctionnement démocratique de notre société et à les considérer comme une puissance qui sert d'abord ses propres intérêts, ensuite ceux d'un parti ou d'un clan, enfin, et si secondairement que cela semble être par accident, ceux de la société, en lui conférant une certaine connaissance d'elle-même, une certaine visibilité et en assurant une certaine fluidité à sa régulation. Le journalisme ne saurait jouer un rôle véritable et significatif d'information, de vérification et de modérateur du débat public que s'il n'entretient pas de rapport de suggestion avec ceux dont il décrit, analyse ou commente les activités. Or, pour ce qui est des rapports de notre presse avec les pouvoirs, et d'abord avec le pouvoir politique, notre histoire est marquée par une vieille tradition de complaisance, quand ce n'est pas par de très anciennes habitudes d'inceste. L'ancêtre de nos journaux, la célèbre Gazette de Théophraste Renaudot, voulue par Richelieu et souvent rédigée par ses soins, est un journal officieux que l'un des biographes de Renaudot, Gérard Jubert, qualifie, je cite, « d'outil de propagande cherchant à rectifier les rumeurs et à faire sonner haut et fort les actions du roi et celles de son ministre ». On sourira d'ailleurs du demi-aveu du fondateur officiel de la Gazette lorsqu'il se donne pour devise « En une seule chose ne le céderai-je à personne, la recherche de la vérité, de laquelle néanmoins je ne me fais pas garant ». Richelieu est moins ambigu, qui déclare « La Gazette fera son devoir ou Renaudot sera privé des pensions dont il a joui jusqu'à présent ». À la fin de sa vie, Renaudot reconnaîtra cet état de subordination de son journal en écrivant « Ma plume n'a été que greffière ». Deux siècles plus tard, le futur inventeur de l'agence de presse, Charles Havas, ne relève guère d'une autre analyse lorsqu'il propose au gouvernement de Charles X en 1825 de confier à son tout nouveau bureau de nouvelles les informations dont le ministère craint qu'elles ne soient pas crues, s'il les donne lui-même, et celles dont il veut tester les effets sans avoir à en endosser la paternité et en pouvant les démentir. En échange de cette livrée, discrète mais pesante, Havas obtient le monopole de l'information financière, ce qui n'est pas à l'époque une petite rétribution. Notre tradition de presse, notre culture d'entreprise, dirait-on sans doute plus volontiers aujourd'hui, est marquée par cette constance de la suggestion, souvent de la servitude, parfois de la servilité, qui ne peut être oubliée au motif que tout au long de l'histoire des imprimeurs, des publicistes, des journalistes ou des industriels de presse se sont voués à prendre leur distance avec elle et qu'il a toujours existé ce que l'on a appelé un journalisme d'opinion, souvent malmené, souvent courageux. Notre tradition de presse est également marquée par le rôle de la puissance publique, et ça n'est pas attenter à l'honorabilité ni oublier la rare personnalité et la compétence d'Hubert Boeuf-Méry que de nous étonner, à l'exemple des commentateurs étrangers, que de nous étonner que nous ne nous étonnions pas qu'il ait reçu les rênes et les biens de l'ancien quotidien Le Temps des mains du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Enfin, pour prendre un dernier exemple de ces réflexes de connivence avec la puissance publique qui semblent inscrits dans le patrimoine génétique de la presse française, je soulignerai que le zèle, pas toujours sollicité, avec lequel elle a, durant la Première Guerre mondiale, relayé les bobards officiels, allant jusqu'à publier que les balles allemandes ne tuaient pas, ce zèle, que l'arrière a vite perçu comme tel, et de plus en plus au fur et à mesure que les permissionnaires lui décrivaient la réalité, ce zèle a été fatal à la prospérité des journaux. Jamais après 1918, la presse quotidienne française d'intérêt général ne retrouvera le niveau des tirages qui étaient les siens au début du siècle. Il est sans doute utile de rappeler, tant est répandue l'idée que nos concitoyens seraient, pour Dieu sait quelle mystérieuse raison, rétifs, voire allergiques à la lecture des journaux, qu'à la veille de la Grande Guerre, la France était le pays d'Europe où circulait le plus grand nombre et le plus fort tirage de quotidiens nationaux. Des 80 titres de 1914, il n'en restera plus que 31, 25 ans plus tard, 28 en 1947, après l'effervescence de la Libération et de ses publications éphémères, 14 en 1952, 7 aujourd'hui, si j'ose dire devant Henri Amouroux que François est encore vivant. Puisque j'ai évoqué la période de la Libération et l'effondrement, la descente aux enfers, écrit l'administrateur délégué du Canard enchaîné Nicolas Brimaud, de la presse quotidienne d'intérêt général en France, je voudrais braquer le projecteur sur un autre élément tout à fait singulier de notre histoire. On se souvient des titres confisqués à la Libération, mais on rappelle rarement qu'à la même époque, 80% des machines et des bâtiments furent expropriés et qu'ils furent gérés par une sorte de régie d'État, la Société nationale des entreprises de presse. Cette SNEP exerça son mandat jusqu'au vote de la loi sur la dévolution des biens de presse qui ne fut promulguée qu'en 1954. Pendant près de 10 ans, c'est donc une régie d'État qui gérera une grande part des moyens nécessaires à la fabrication des journaux. En 1946-1947, lorsque la presse a connu sa plus longue grève, 31 jours sans quotidien, c'est la SNEP seule qui négociait au nom du patronat. Et si l'on ajoute que cette société d'État avait pour interlocuteur un syndicat en position de monopole, la CGT du Livre, on peut ne pas être étonné que la presse quotidienne d'information générale n'ait pas pris avec un grand souci de la réalité les tournants qu'imposaient les très importantes mutations sociales et techniques. Il est même probable qu'elle ne les a pas aperçues. Selon une tradition tout à fait française, c'est à l'État que la presse fait appel pour porter remède aux effets pervers de la protection de l'État et pour réparer les dommages collatéraux causés par son intervention. C'est ainsi qu'au fil des ans s'est construit un véritable maquis d'aide où seuls les experts de Bercy et de la Fédération nationale de la presse française parviennent à se retrouver. Qui dit maquis dit visibilité réduite. Cependant, on estime que les sommes affectées à ces aides représentent environ 80% du montant des investissements publicitaires dans le secteur de la télévision hertzienne. Selon les titres, c'est entre 13 et 20% du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui assuré par les aides directes et indirectes de l'État. On est donc en droit de parler d'un véritable cordon nourricier entre l'État et la presse. Il faut ajouter à cette considération le fait que malgré les promesses contraires, aucun gouvernement ne s'est enhardi jusqu'à interdire aux sociétés vivant pour l'essentiel des marchés publics de posséder des entreprises de communication. Bien entendu, et même si depuis une quinzaine d'années, nombre d'affaires de corruption et de corruption de grande ampleur ont mis en cause et quelquefois envoyé en prison des responsables de ces sociétés et des élus qui avaient cédé à la tentation qu'elles leur avaient fait miroiter, il n'est pas question de jeter l'ombre du doute sur la probité personnelle des dirigeants des groupes qui vivent pour l'essentiel ou pour la totalité des marchés publics. Tout porte à croire, et d'ailleurs ils l'affirment, qu'ils sont de vigilants et scrupuleux gardiens de l'indépendance des rédactions dont ils possèdent le ou les titres, comme tout laisse à penser que les responsables de ces rédactions ne toléreraient aucune pression de leurs actionnaires ou que lesdites rédactions n'accepteraient pas que leurs responsables s'inclinent devant les directives de leurs propriétaires. La morale des uns et des autres est évidemment insoupçonnable et leur vertu doit être postulée. Mais la morale est une affaire personnelle. Elle est et doit demeurer d'ordre privé. Le système républicain et démocratique repose sur les garanties que la loi donne aux citoyens et non sur l'hypothèse de la vertu de tel ou tel dirigeant politique, économique ou financier. En autorisant, et la France est l'un des seuls pays comparables à le faire, des groupes qui vivent pour l'essentiel ou pour la totalité de commandes ou de marchés publics à posséder des entreprises de communication, nous créons les conditions du conflit d'intérêts. Nous rendons possible l'inceste entre les pouvoirs et les moyens d'information les plus importants. En matière de relations coupables, je mentionnerai également une prouesse de notre esprit gaulois que l'on pourrait baptiser l'aide ultra-indirecte. Elle consiste en l'interdiction faite pendant des années à la télévision de diffuser des publicités pour certains secteurs, notamment la grande distribution, interdiction encore partiellement en vigueur. La presse quotidienne régionale a fait une pression constante sur les gouvernements pour que ces secteurs particulièrement lucratifs restent sa chasse gardée. Elle s'est ainsi assurée une ressource sans effort, et cette protection a été un facteur aggravant du retard pris dans la modernisation sociale et technique de nos journaux. Les nécessités du maintien de ce protectorat ont aussi contribué à lier les propriétaires des médias au personnel politique, tout parti et toute période confondues, donnant à nos journaux une tournure légitimiste qui tranche avec les publications des pays comparables. En outre, ces mesures ont aggravé le conservatisme, tant de la gestion que de la distribution et du contenu de notre presse. Sans forcer le trait, il me semble que l'on peut dire que depuis 1945, la presse, grâce à ce qu'elle a obtenu de l'État, a pu vivre à l'abri de la réalité économique, de la réalité sociale, de l'évolution de l'une et de l'autre, et surtout, qu'elle a pu vivre à l'abri des lecteurs. C'est d'ailleurs cette vie à l'abri des lecteurs sur laquelle je voudrais maintenant concentrer mon propos, puisqu'elle me semble non pas la plus nuisible à la démocratie, il est bien difficile d'établir un palmarès du pire, mais l'une de celles les moins souvent versées au débat. En reprenant les expressions de Balzac et de Chateaubriand, je m'en suis tenu jusqu'à présent à cette fonction de la presse qui consiste à éclairer le citoyen, c'est-à-dire non seulement à rendre possible la circulation et la confrontation des opinions, mais aussi à lui permettre de vérifier la véracité de la parole publique, de discuter l'effectivité et l'efficacité des politiques, leur conformité avec les buts affichés, etc. Mais la presse remplit une autre fonction, essentielle à la réalité de la vie démocratique, celle de nous dire où nous sommes et où nous en sommes. Elle accomplit cette tâche par le moyen du reportage. Vous avez bien voulu m'inviter à prendre la parole devant votre académie, à qui le retentissement des travaux de Louis-René Villermé doivent tant. En informant, et si souvent en détail, sur la question majeure de son temps, la question sociale, le docteur Villermé n'a pas seulement, appuyé par vos prédécesseurs, ses confrères, contribué à des solutions immédiates à certains problèmes, comme le travail des enfants, mais il a également nourri la réflexion d'une pléiade de penseurs où l'on trouve aussi bien Karl Marx que les tenants d'une nouvelle doctrine sociale de l'Église. Les enquêtes comme celle de Villermé ont donné à leurs contemporains de quoi fonder les actions les plus diverses sur la réalité de leur époque. Si l'on veut bien considérer que nous traversons une période au moins aussi riche en bouleversements et en incertitudes que celle du passage de la société agricole à la société industrielle, ce sont des Villermé, des Villeneuve-Bargemont, des Gérando, des Bigot de Morogne dont nous avons besoin aujourd'hui, et dans d'autres pays, le journalisme est capable de les fournir. Malheureusement, non seulement la tradition du reportage est la plus dévaluée de toutes les traditions du journalisme français, mais au fur et à mesure de l'aggravation de sa crise économique, il a augmenté le poids de ce journalisme de cour dont j'ai tenté d'évoquer quelques-unes des origines. La presse ne considère digne de son intérêt que deux sujets d'information, les institutions et les appareils politiques. Pour prendre un exemple un peu lointain et donc pas trop passionné, aux élections municipales en 2000, combien de pages consacrées à la vie interne convulsive du RPR parisien et national, ou aux émois et aux trépidations intestines du Parti socialiste? Combien de litres d'encre pour rendre compte de la bataille où s'affrontèrent Jean Tiberi et Philippe Seguin sous l'arbitrage, peut-être oublié aujourd'hui, de Michel Alliot-Marie? Combien de colonnes pour ne rien nous laisser ignorer de la rivalité entre Jacques Lang et Dominique Strauss-Kahn, puis entre Jacques Lang et Bertrand Delanoë? Et en face, combien de lignes pour raconter Paris et ses transformations si nombreuses et si importantes que le très regretté Louis Chevalier les qualifiait de ruptures, comme il n'en avait connu aucune dans l'histoire de cette ville? Combien de phrases pour décrire le travail partout en France de ces conseillers municipaux bénévoles dont on a célébré les vertus indispensables à la vie publique que le temps d'enterrer 8 d'entre eux assassinés à Nanterre? Combien de mots pour faire connaître ceux qui ne se résignent ni à la déréliction, ni à l'autoritarisme, ni à la jungle, ni à la tolérance zéro, et qui, dans les cités, inventent ou bricolent des réponses aux défaillances de l'école, des institutions sociales, de la justice, de la police. Il est vrai que la presse n'a pas besoin d'aller voir sur place, elle n'a qu'à recourir aux sondages. Ils lui tiennent désormais lieu d'enquêtes et de reportages. L'insécurité, un sondage. L'immigration, un sondage. Le moral des Français, un sondage. Et sondage après sondage, notre méconnaissance de nous-mêmes et de la société dans laquelle nous vivons progresse sans désemparer. Je me suis efforcé de dresser l'inventaire de quelques-uns des handicaps que le journalisme doit surmonter en France pour être un auxiliaire de la démocratie, au sens où l'on parle d'auxiliaire de justice. J'ai conscience, et plus encore maintenant que je l'ai prononcé devant vous, du caractère insuffisant de mon propos et de la nature cavalière de la perspective que je viens d'esquisser. Je sens bien aussi que je n'ai pas pu me défaire, alors que je me l'étais promis, de ces mouvements de passion et de passion déçue, qui sont d'abord ceux d'un ancien adolescent, lecteur ardent des quotidiens et des hebdomadaires dans lesquels il cherchait et assez souvent trouvait de quoi comprendre son époque et donc penser pouvoir y prendre sa place. Ces mouvements de passion sont aussi ceux d'un jeune sociologue que Pierre Nora recommanda à Jean-François Revel lorsque celui-ci entreprit, et avec quel succès, de donner un nouveau souffle à l'Express. Peu de gens auront porté comme lui le souci de l'indépendance, d'une indépendance sans arrogance ni forfanterie, d'une indépendance fondée sur le travail et non sur des postures. En me montrant et en montrant à ses lecteurs que ce journalisme-là était possible, Jean-François Revel a justifié toutes les exigences à l'égard de la presse. Je voulais terminer mon propos en lui rendant le plus affectueux des hommages, mais comme il n'aimait pas que l'on soit grave, je conclurai avec votre permission par une anecdote souriante dont il ne sera pas absent. En 1996, un professeur de philosophie, donna à commenter à ses élèves, pour les besoins d'un bac blanc, un texte très critique de Revel sur l'objectivité de l'information. Quelque peu secoué par la médiocrité et le charabia de beaucoup de copies, ce professeur en dressa un florilège qu'il adressa à l'auteur du texte, qui me le confia au cours de l'un de nos nombreux déjeuners. Je n'en retiendrai qu'une perle, celle de ce garçon qui écrivit « On le voit, la société démocratique ne reste qu'utopique. Néanmoins, on se doit d'encourager les journaux libres et autres indépendants afin d'arriver à une plus grande concentration de vérité dans les mensonges. » Comme on dit dans mon métier, fin de citation, je vous remercie de votre patience.
Vous venez d'entendre Philippe Meyer, journaliste, sociologue et producteur, lors de sa communication « Journalisme et démocratie » devant l'Académie des sciences morales et politiques le 27 novembre 2006.